Voilà, nous reprenons donc maintenant le fil de nos instituts bibliques que nous avons arrêtés pendant les vacances. Pendant l'année scolaire qui a précédé, nous avons commencé donc à considérer ensemble un certain nombre de valeurs et de vertus chrétiennes. Nous avons déjà vu un certain nombre. Et je vous invite à continuer dans cette ligne. Il y a encore pas mal de choses auxquelles on peut réfléchir. Et nous allons parler ce matin de la tempérance. La tempérance. Alors, nous lisons quelques textes dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire d'abord dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Paul contraste notre mode de vie avec celui de ceux qui nous entourent. Il dit, « Vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Et puis une recommandation que fait l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Et puis un dernier texte se trouve dans l'épître de Galates au chapitre 5, les versets 22 et 23. C'est un texte bien connu, mais qu'il est bon de rappeler, Galates 5, 22 et 23. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Jusqu'ici donc nos lectures. Nous abordons donc aujourd'hui une valeur dont on ne parle pas forcément beaucoup. Cette valeur, c'est la tempérance. Alors, il se peut que le mot même ne vous soit pas très familier. Dans sa définition classique, le mot tempérance signifie, et je cite ici le petit Robert, c'est la modération dans tous les plaisirs des sens. La modération dans tous les plaisirs des sens. Mais le petit Robert ajoute à la définition l'indication que ce mot est un mot vieilli. Bon, entérinons la chose. On parle aujourd'hui beaucoup plus de sobriété ou de maîtrise de soi. Les textes bibliques que nous avons lus emploient ces termes dans la traduction. La tempérance, pourtant, fait partie dans ce qu'on a appelé traditionnellement les vertus cardinales chrétiennes, c'est-à-dire celles qui servent de pivot et de centre de la foi, elle fait partie des quatre vertus que l'on a considérées traditionnellement comme des vertus cardinales. Ces quatre vertus, reconnues comme centrales, sont la justice, la prudence, la force et la tempérance. Et ça dessine un peu un profil. La justice donne l'orientation de la conduite bonne. La force parle de la fermeté nécessaire pour entrer dans cette conduite, et on en a parlé quand on a parlé du courage. La prudence donne la règle et la mesure lorsque l'on considère les situations de vie, nous en avons parlé aussi. La tempérance, elle, évite d'être envahie, d'être débordée intérieurement par les désirs, par les passions qui peuvent nous emporter, nous habiter. C'est donc une vertu de mesure que la tempérance, une vertu de limite à ce qui pourrait nous emporter. Alors il faudra comprendre pourquoi il faut mettre cette limite. Pourquoi et dans quel but? Mais d'emblée, on se rend compte que la tempérance est assez éloignée des valeurs que l'on prône aujourd'hui. Le désir aujourd'hui, on ne le limite pas, on le stimule. Toute la société de consommation, nous le savons, se mobilise pour réveiller en nous toutes sortes de désirs et de besoins et pour éviter à ce qu'ils ne soient jamais satisfaits. C'est comme ça que ça fonctionne. La mesure n'a pas meilleure presse. Dans le domaine des médias, ce qui fait parler, ce n'est pas la juste mesure des choses. Ce qui fait parler, c'est ce qui est hors norme. Si vous voulez être regardé ou liké sur Internet, il ne faut pas faire dans la mesure. Il faut faire quelque chose qui est dans l'excès, poster une vidéo d'excès. Là, on va vous regarder, mais la normalité de votre vie, la mesure, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Ceux qui utilisent l'horreur comme signature l'ont bien compris. Et quand on parle de se réaliser soi-même, c'est souvent aussi dans l'excès que l'on cherche à se sentir exister. Hein, qu'on pense à la place que prennent aujourd'hui dans beaucoup de fêtes, les mélanges les plus détonnants d'alcool et de produits stupéfiants. On cherche à aller dans l'au-delà de la normalité. C'est là qu'on a l'impression qu'on va se réaliser. La vraie vie, pour beaucoup, est dans l'éclat et non pas dans la mesure. Et pour beaucoup, c'est au-delà de la limite que les choses intéressantes commencent. Et c'est pourquoi parler de tempérance, c'est peut-être être un petit peu décalé, en tout cas au milieu de tout ça. L'apôtre Paul a assumé cela très courageusement. À un moment donné, il était prisonnier et il a eu l'occasion très régulièrement de s'entretenir avec le gouverneur romain qui était à Césarée, le gouverneur Félix. Et il lui a parlé de ce qu'était la foi en Jésus. Et comment lui en a-t-il parlé? Luc 24, verset 25, il est dit que Paul parlait à Félix, le gouverneur, de la justice, de la tempérance et du jugement. Ce à quoi le fameux gouverneur a répondu en disant « Ouh, pour le moment, tu peux t'en aller, quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » C'est-à-dire le décalage. Mais il y a des décalages qui ont du sens et dont on peut être plutôt fier. Alors, une première question qui se pose à propos de la tempérance est de déterminer si elle est une vertu négative ou une vertu positive. C'est la première question que j'aimerais poser. Est-ce que c'est une vertu négative ou une vertu positive? On parle de mesure, on parle de modération dans les plaisirs des sens ou dans la gestion de nos désirs. Quel est le but de cette invitation? Quel est le but de cette modération? Est-ce que c'est un refus du plaisir? Est-ce que c'est une sorte de suspicion à l'égard de tout ce que l'on peut éprouver d'agréable? En d'autres termes, est-ce que la tempérance est une vertu austère? C'est la question que l'on peut poser. Alors, certains l'ont considérée et l'ont décrite de cette façon-là, en insistant surtout sur la limite qu'il faut mettre à nos jouissances, à ce que l'on aime. Donc, toute une tradition qui se méfiait du corps, qui se méfiait du plaisir, qui se méfiait du désir, la tempérance avait avant tout cette fonction de répression, de limitation des désirs dont il fallait surtout se garder le plus possible. En pensant modération de tous les plaisirs des sens, on pensait surtout aux limitations et aux restrictions. Et partout, en tout cas, où l'idéal de la spiritualité était de se garder de ce qui a rapport au corps, la tempérance prend cette forme répressive. Il faut surtout limiter tout ce qui est désir en nous, tout ce qui pourrait être plaisir, etc. Si en plus on croit que certaines privations ou certaines mortifications sont des œuvres méritoires devant Dieu, ça accentue encore le mouvement et la tempérance conduira à se refuser volontairement certains plaisirs, certaines joies de la vie pour obtenir autre chose ou parce qu'on considère que c'est mauvais. Alors c'est comme ça que, dans une certaine tradition, on a vu la tempérance. comme une vertu très austère. La Bible, rappelons-le, refuse cette manière de voir la bonne création de Dieu. Paul s'oppose très fermement au nom de l'Évangile à une vision où, pour gagner la faveur de Dieu, on se prive des choses que Dieu nous a données pour que nous en fassions notre joie. Je vous lis un texte dans Colossiens 2, versets 20 à 23. Paul dit « Si vous êtes morts avec le Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas » Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines humaines. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Vous voyez que Paul est assez net ici dans ce texte en disant « dire ne prends pas, ne touche pas » en disant que ça va nous apporter quelque chose de plus spirituellement, c'est juste passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. C'est à passer à côté de la liberté que Dieu veut pour nous, et c'est aussi une façon de chercher à se satisfaire soi-même, hein, à soi-même obtenir quelque chose devant Dieu. Donc on ferme la porte à cette façon de voir dans une perspective biblique. Ceci dit, aujourd'hui nous sommes loin de cette manière de voir qui essaye de valoriser surtout la méfiance à l'égard du corps et du plaisir. Et aujourd'hui, ceux qui donnent une valeur positive à la tempérance vont le faire sur un tout autre registre. Et en fait, les défenses que l'on a aujourd'hui de la tempérance, on les fait au nom du plaisir. Et c'est pour le plaisir que l'on valorise la tempérance. Si la tempérance a pour but de nous refuser de jouir des choses, dit-on, ce n'est pas une vertu, mais c'est une tristesse. Mais le but de la tempérance n'est pas de nous faire jouir moins, mais au contraire, de nous faire jouir mieux. Alors ça, c'est la thèse d'André Comte-Sponville, son ouvrage « Le petit traité des grandes vertus ». Je me sers pas mal de cet ouvrage pour une première base, souvent, hein. C'est intéressant. Et il s'appuie beaucoup sur le philosophe Spinoza, dont toute la pensée et l'éthique se basent sur l'idée que chacun doit avant tout persévérer dans son être, affirmer son désir d'être, se réaliser au mieux. Alors, quel est le sens de la tempérance dans ce sens-là? Dans cette perspective, la tempérance, c'est user des choses et y prendre plaisir tant que cela reste un plaisir. Et il faut veiller à ce que cela reste un plaisir. Au-delà d'un certain seuil, on risque de basculer dans le dégoût, ce qui n'est plus prendre plaisir. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on vit la tempérance ? C'est pour que le plaisir subsiste. Et on veut mettre une limite pour rester dans la limite du plaisir et ne pas tomber dans ce qui deviendra désagréable. Ça permet une jouissance, elle est au service du plaisir, c'est une modération au service du plaisir. Elle relève donc de l'art de jouir. Alors l'exemple type pour donner cela, c'est l'exemple du goinfre. Le goinfre qui, après avoir trop mangé, se trouve lourd, gonflé, épuisé. Le goinfre, il ne profite pas de ce dont il s'est goinfé. Au contraire, il est dégoûté. Et donc la tempérance devrait permettre d'éviter d'arriver à cet état où on est vraiment complètement mal et avachi. Hein. C'est pareil pour celui qui a trop bu, qui se sent trop mal, l'estomac chaviré, la tête explosée. Ces manques de tempérance sont les ennemis du plaisir. Et donc la tempérance, dans cette ligne-là, c'est une façon de veiller sur les limites à ne pas dépasser pour que le plaisir ne devienne pas désagrément. Quand on fait cela, la tempérance devient, et c'est une belle expression de Montaigne, elle devient l'assaisonnement du plaisir. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est l'assaisonnement du plaisir. C'est très, très joliment dit. Ce qui permet de savourer le plaisir en sa plus gracieuse douceur. Voilà, je vous cite encore Montaigne là-dessus. Voilà, on garde la mesure, et cette mesure, c'est l'assaisonnement du plaisir. Mettez face à face un gourmet qui savoure et un goinfre qui engloutit, le plaisir, le meilleur plaisir, est clairement du côté du gourmet qui savoure, qui sait apprécier les choses. Donc la tempérance, on la valorise comme cela, comme un art de jouir. Vous avez certainement entendu parler de l'épicurisme. Épicure, donc c'était au 4e siècle avant Jésus-Christ, développait une éthique de la vie heureuse. Il faut chercher le maximum de bonheur dans la vie. Et ce maximum de bonheur dans la vie se trouvait non pas dans les excès, mais au contraire dans la jouissance équilibrée des choses. C'est ça ce que valorisaient Épicure et les épicuriens, comme on en parle encore aujourd'hui. Et donc la tempérance dans cette optique est un précepte de bien-être. La question qui se pose, est-ce que c'est encore dans cette perspective une valeur morale liée à un devoir-être, hein? Quand on parle de valeur morale, c'est on fait ce qu'il faut faire, un devoir-être. Pas vraiment. Dans cette optique, la tempérance n'a pas une valeur morale, mais elle est plutôt une question de choix personnel. Et donc, c'est ce que disait Voltaire dans un dictionnaire de philosophie, il disait « Que m'importe que tu sois tempérant, c'est un précepte de santé que tu observes, tu t'en porteras mieux et je t'en félicite. » Donc, ce que dit Voltaire, ce n'est pas du tout moral d'être tempérant dans ce cas-là, c'est ton choix, tant mieux pour toi, tu seras mieux, mais c'est un choix de vie personnel. Voilà pour la façon dont on voit la tempérance aujourd'hui, très positivement, en face d'une valeur négative et austère, restrictive de la tempérance. Maintenant, la question qu'il faut nous poser, nous, c'est à partir de quand et dans quelle perspective est-ce que la tempérance prend une valeur morale ou une valeur spirituelle? Et c'est donc le deuxième point, la valeur morale et spirituelle de la tempérance. On passe du niveau tempérance-bien-être au niveau moral. Lorsque l'on motive la tempérance par une autre raison que le plaisir, et une motivation qui devient plus morale, c'est de dire « je veux être tempérant parce que je veux rester maître de mes désirs ». Je veux rester maître de mes désirs, de mes plaisirs. Je mets une limite à mes désirs, je mets une limite à mes plaisirs. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas en être esclave. Je ne veux pas en être esclave, je ne veux pas qu'il me domine, je ne veux pas qu'il me détermine. Et c'est pour cela que je tiens à mettre moi-même les limites, de peur que ce soit eux qui m'entraînent et que je devienne esclave de ces choses-là. Là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus moral. Je veux rester au contrôle pour ne pas être débordé, pour ne pas me conduire aussi à faire ce que je ne voudrais pas faire, parce que je serais entraîné par le désir, entraîné par ce qui me tire. Je ne veux pas me laisser entraîner dans quelque chose que je ne choisirais pas ou que je ne contrôlerais plus. L'enjeu, ici, c'est une certaine idée de la grandeur de l'homme. Je dois rester sujet, capable de dire « je fais, je choisis ». Et capable de dire cela d'une manière libre, d'une manière responsable. Quand on choisit ce terrain-là, donc rester maître de ses désirs, rester nous-mêmes sujet de notre vie, à ce moment-là, on est sur un terrain moral. C'est le respect du principe de la grandeur de l'homme, que la grandeur de l'homme, c'est sa liberté responsable. Et cette liberté, il faut la préserver, il faut y veiller, il ne faut pas y renoncer. Alors, il y a deux facettes à cette façon de voir qui dit « je veux préserver ma liberté ». Une facette va se dire négativement. Je l'ai déjà dit, je refuse d'être asservi par mes désirs. Donc, je veille à garder les choses parce que je refuse l'asservissement à mes désirs, à mes passions ou à certaines habitudes dont je n'arriverai plus à me défaire. Et pour cela, je vais veiller toujours à garder le sens de la mesure. Donc ça, c'est vraiment une première facette de dire « attention, je ne veux pas être asservi ». Une deuxième facette de cette même attitude se dit plus positivement en disant « on profite tellement mieux de quelque chose quand on reste libre ». On profite tellement mieux de quelque chose quand on reste libre. Quel plaisir de boire, si on aime l'alcool, quel plaisir de boire quand on n'est pas prisonnier de l'alcool. Quel plaisir de manger un bon repas quand on sait qu'on n'est pas en train d'engloutir simplement pour combler une espèce de vide intérieur. Mais que la liberté permet aussi de mieux jouir, de mieux profiter des choses comme d'un don. Alors, je crois qu'il faut mesurer ici combien manquer de tempérance peut devenir un esclavage terrible. Ne pas savoir, ne plus pouvoir mettre une limite à certains désirs ou à certains comportements, c'est un asservissement. Et l'asservissement est d'autant plus fort qu'on transporte partout son maître avec soi. C'est une formule d'André Comte-Sponville. Et c'est entre autres le problème des addictions. Le problème des addictions. L'addiction, on le sait, elle se fait comment ? Elle se fait progressivement. Mais elle se fait insensiblement aussi. C'est progressivement et parfois sans s'en rendre compte que quelqu'un tombe dans une addiction dans laquelle après, il n'arrive plus à s'en sortir. Quand de manière régulière, on a du mal à se refuser certains comportements ou certaines substances, il faut s'interroger honnêtement sur nous-mêmes et en dire « où est-ce que j'en suis ?» Alors c'est facile de dire ou de se dire « oui, je maîtrise, je contrôle » et de se rassurer comme ça à bon compte. Mais pour être sûr qu'on n'est pas en train de devenir dépendant, pour être sûr qu'on reste libre, il faut faire régulièrement des tests sur nous-mêmes et des tests très clairs, basés sur des faits. Il y a certains endroits, le vrai test, le seul test qui permet vraiment de savoir si je suis capable, si je suis pas accroché à une pratique, à une habitude, c'est de savoir si je suis capable, sur un temps relativement long et régulièrement, de me priver de cette pratique ou de cette substance, et si je suis capable de le faire sans être en état de manque d'une certaine façon, sans avoir besoin d'y revenir. Donc les addictions, ça existe. Ça se fait très progressivement et il nous faut apprendre, la tempérance, la mesure doit nous aider à veiller sur nous-mêmes au fur et à mesure de ce que nous vivons pour éviter que nous nous retrouvions tout d'un coup de l'autre côté et sans plus trop savoir comment nous y sommes arrivés. Donc je crois que ça c'est vraiment important de garder la tempérance dans ce rôle de prévention, comme une pratique régulière, une vigilance concrète. Et puis, de temps en temps, le fait que la tempérance soit devant nos yeux comme un objectif doit aussi servir de signal d'alarme. Si vraiment je me rends compte qu'il devient de plus en plus difficile de me maîtriser sur un terrain, il faut que la lumière rouge s'allume et que je sois là en disant « mais s'il y a une exigence de tempérance, comment est-ce que je vais faire pour préserver ma liberté ?» Donc, il est important d'avoir ce sens-là de la tempérance en disant veiller à rester libre, à ne pas tomber dans un asservissement qui peut aussi prendre la forme d'une addiction ensuite. Donc veiller, et c'est donc un premier sens moral, on va dire, de la tempérance, une première utilité au service de notre grandeur, de cette liberté d'être à préserver. Maintenant, est-ce qu'il y a des motivations plus spécialement chrétiennes concernant cette question de la tempérance? J'aimerais citer au moins trois motivations chrétiennes, spécifiquement chrétiennes. Parce que nous sommes chrétiens, nous allons penser à la tempérance de cette façon-là. Première raison pour laquelle je vais vouloir respecter le principe de tempérance, c'est que nous voulons honorer la bonne intention du Créateur. Nous voulons honorer la bonne intention du Créateur. 1 Timothée 6, verset 17, Paul dit « Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Il y a une grande générosité de Dieu pour nous quand on pense à tout ce qui peut nous apporter des joies et des satisfactions dans la vie. Dieu nous a fait. Dieu nous a voulu avec cette capacité de nous relier au monde d'une manière riche, d'une manière sensible. Hein, il nous a créé de telle sorte qu'il y a des choses qui nous font vraiment plaisir, qu'on vibre lorsqu'on est en relation avec un certain nombre de choses qui sont belles et bonnes dans le monde. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, vous savez ce que ça veut dire ? Ça voulait dire le jardin des délices. Le jardin des délices, c'est là que Dieu, c'est le cadre que Dieu a voulu pour nous en créant la terre. Et ce jardin était rempli d'arbres, nous dit le texte de la Genèse, qui étaient d'aspect agréable et qui portaient des fruits délicieux. Tout cela parle de quoi ? Ça parle de bonnes choses que Dieu donne, mais ça parle aussi du fait que Dieu nous a créés de telle sorte que nous sommes surtout pas indifférents à ces bonnes choses. Si on parle d'un fruit délicieux, ça veut dire que c'est un fruit qui va nous apporter quelque chose. Si on parle d'un arbre d'aspect agréable, ça veut dire que la vue de cet arbre, ça nous remplit de joie. On a été fait par Dieu pour que dans le monde qu'il nous a donné, on puisse vraiment se réjouir, trouver du plaisir dans le cadre qui nous a été donné. Et ça, c'est vraiment important pour nous de nous le rappeler. Dieu nous a voulu vraiment comme cela, c'est l'intention du Créateur. Mais en même temps, il nous a créés en tant qu'hommes et femmes, créés en son image et avec une dignité particulière parce que nous sommes en image de Dieu. Et l'asservissement, la dépendance par rapport aux choses, c'est renier quelque chose de cette intention que Dieu avait pour nous. Dieu a dit à l'homme, en le mettant sur la terre, dominer sur toute chose, mais pas soyez dominé. Dieu a dit cultivez, réjouissez-vous, goûtez, mais non pas laissez-vous, soyez prisonniers de ces choses-là. C'est une inversion que tomber dans une dépendance ou dans l'excès non contrôlé. Hein. Et nous voulons donc honorer la bonne intention du Créateur en jouissant de ce qu'il nous donne, mais en jouissant de ce qu'il nous donne dans la liberté et dans la maîtrise. Donc, premier point, honorer la bonne intention du Créateur. Deuxième raison chrétienne pour la tempérance, c'est que nous voulons manifester que Jésus est vraiment notre Seigneur. Nous voulons manifester par nos vies que Jésus est vraiment notre Seigneur. Je vous lis un texte dans 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13. Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, dit-il, n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Et Paul pose ici le principe que nous acquérons une grande liberté par la foi en Jésus. Tout est permis, il y a une grande liberté. Et c'est vrai que la foi chrétienne libère de pas mal de craintes. Les gens qui, par exemple, pensent qu'il y a des choses qui pourraient être mauvaises, juste toutes sortes de superstitions liées aux choses, touche pas ça, mange pas ça, parce que sinon il risque d'arriver malheur, et des tas de choses comme cela. Quand on parle de la bonne création de Dieu, on est libéré de ce genre de choses-là. Donc il y a une vraie libération. Mais en même temps, un garde-fou, je ne me laisserai asservir par rien. Et je ne me servirai pas de ma liberté ou je ne me servirai pas de mon corps pour faire le mal. Car mon corps, dit l'apôtre Paul, il est pour le Seigneur. Autrement dit, être chrétien, avoir reçu le salut en Jésus, c'est une belle liberté dans notre relation à Dieu, dans notre relation au monde, mais c'est aussi vouloir vraiment que Jésus soit le maître et le Seigneur de tout ce que nous faisons. Ça, c'est vraiment une motivation importante pour nous. Quand nous nous faisons baptiser, nous confessons que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Et on veut qu'il reste, lui, le Maître. Il ne veut pas être asservi à quoi que ce soit, ou dominé par quoi que ce soit, parce que Jésus doit en rester le Maître. Et c'est ce que nous voulons vraiment, en reconnaissance à ce qu'il a fait pour nous. Toujours dans cette même épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, Paul dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et la tempérance, donc, dans une perspective chrétienne, c'est une manifestation de notre consécration à Jésus. Je veux appartenir à Jésus dans tout ce que je fais. Je veux que ce que je fais soit en accord avec ce que le Seigneur veut et que l'usage de mon corps, l'usage des biens, l'usage de tout ce que j'ai soit en accord avec ce que le Seigneur veut. Et puis, je veux aussi que je ne sois asservi par quoi que ce soit parce que c'est Jésus qui est mon maître. Je veux manifester vraiment que Jésus est mon Seigneur. Ça, c'est une deuxième raison. Donc, honorer l'intention du Dieu créateur, manifester que Jésus est notre Seigneur. Et troisièmement, nous voulons aussi rendre témoignage de l'œuvre restauratrice et libératrice du Saint-Esprit. La Bible ne nous cache pas que le péché peut devenir une force d'asservissement. Paul le dit souvent. Tite 3, verset 3, il dit « Autrefois, nous étions désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Donc là, autrefois, sans Dieu, nous étions, dit-il, asservis à toute espèce de convoitise de volupté. Et c'est une réalité que si souvent, la force du mal, des passions qui sont en nous, est là comme quelque chose que l'on n'arrive pas à maîtriser. Le péché peut devenir une force d'asservissement. Et il y a des moments, et dans un texte très, très poignant, où Paul décrit l'homme qui se trouve avec ses propres forces face à ce qu'il voudrait être, voilà le constat qu'il fait, Romains 7, verset 25. Il dit « Ainsi donc, moi-même, moi tout seul, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. » Autrement dit, je reconnais ce que Dieu veut et j'aimerais bien vivre comme Dieu le veut. « Mais, dit-il, je suis par la chair, parce que je découvre en moi, esclave de la loi du péché. » Et là, il parle d'une loi du péché qui agit dans nos membres. Et juste avant, il venait d'exprimer ce qu'il entend par cette idée d'une loi du péché. Donc Romains 7, 18 à 24, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » On sait ce que ça veut dire, cela. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est là dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le péché qui est à l'œuvre en nous est une force qui nous tire, qui parfois nous domine, il ne faut pas le cacher. Et parfois nous crions aussi, mais qui me délivrera? Mais il y a une suite à ce cri, qui me délivrera? Tout comme en Romains 7, Paul a parlé de la loi du péché qui est dans mes membres, juste après, au début du chapitre 8, il parle d'une autre loi, libératrice celle-là. Romains 8, versets 1 à 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et il continue au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Qu'est-elle cette loi nouvelle de l'esprit de vie ? C'est la transformation que l'Esprit de Dieu veut opérer en tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus et qui reçoivent son pardon. Il se produit alors une régénération, c'est un mot biblique, la régénération, une nouvelle naissance, le début d'une nouvelle vie avec de nouvelles ressources aussi. Et c'est une vie dans laquelle l'Esprit produit en nous de nouveaux fruits, ceux que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Ce fruit de l'esprit qui est joie, paix, bienveillance, amour, bonté, douceur, maîtrise de soi. Alors ce n'est pas toujours très simple. Il arrive que des choses se règlent dans nos vies du jour au lendemain. On sait qu'il y a des personnes qui avaient des vies complètement catastrophiques avant d'ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus et qui, dès que le Seigneur intervient dans leur vie, voient des libérations magnifiques. Et c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Il arrive aussi parfois que certaines libérations prennent du temps, mais c'est une réalité que l'on expérimente. Le Saint-Esprit nous transforme si nous le demandons. Il nous donne les victoires que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. Et l'un des aspects de cette transformation, c'est qu'il veut nous libérer de ce qui nous asservit. Et donc la maîtrise de soi comme fruit de l'Esprit, c'est aussi cette victoire. Dieu nous donne la maîtrise sur ce qui nous asservirait sans lui. Et il nous permet, par rapport au mal qui autrement nous entraînerait, de nous retrouver nous-mêmes en capacité de direction de notre vie avec la force de résister au mal. Et donc la tempérance, la maîtrise de soi, c'est cette capacité donnée par Dieu d'être le chrétien, la chrétienne que nous voulons être pour lui faire plaisir et pour le glorifier. Et donc ce n'est pas du tout la maîtrise de soi de quelqu'un qui est suffisant, qui dit « ouais, moi je suis maître de moi-même ». Au contraire, c'est la maîtrise de soi pour être celui ou celle que Dieu veut que nous soyons, et il nous donne les ressources par son esprit pour cela. Les motivations donc de la tempérance, de la maîtrise de soi, ce sont donc ces trois motivations. Nous voulons honorer la bonne intention du Créateur, nous voulons manifester que Jésus est vraiment notre Seigneur, et nous voulons rendre témoignage de l'œuvre restauratrice du Saint-Esprit qui peut vraiment nous renouveler intérieurement. Et donc c'est en fonction de cela qu'on peut préciser ce qu'est la tempérance d'un point de vue chrétien. La tempérance, c'est un peu la définition que je lui donnerai maintenant au terme de tout cela. La tempérance, c'est être capable, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, à trouver un grand plaisir dans ce que Dieu nous donne, mais en gardant dans cette jouissance le sens de la mesure et le respect de ce que Dieu attend de nous. Donc être capable, avec l'aide du Saint-Esprit, à trouver un grand plaisir dans ce que Dieu nous donne, mais en gardant dans cette jouissance le sens de la mesure et le respect de ce que Dieu attend de nous. Voilà pour les contours de ce qu'est la tempérance. Voyons maintenant dans un point suivant, quels sont les domaines concernés par la tempérance? On voit à peu près de quoi il s'agit. Quels sont les domaines concernés par la tempérance, par cette œuvre, concernés par cette œuvre de restauration de l'Esprit de Dieu en nous? Alors, premier domaine, ce sont nos désirs et nos plaisirs. On en a déjà beaucoup parlé. Dieu nous invite à jouir de toute la création, mais il marque aussi ses limites. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. C'est ça le grand commandement d'ouverture et de liberté. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance autonome du bien et du mal. Ça, c'est la limite. Et donc, la tempérance, c'est de respecter les limites morales données par Dieu. Quand Paul parle au gouverneur Félix, c'est dans Actes 24. Quand Paul parle au gouverneur Félix de la tempérance, c'est dans ce sens-là. Respecter les limites morales données par Dieu. Félix était un affranchi, un ancien esclave ou d'une famille d'esclaves qui était parvenu au sommet. Et Félix, le gouverneur, était connu pour ses manifestations assez rudes, violentes et arbitraires de pouvoir, pour ses actions répressives violentes. Et Paul l'appelle à la justice et à la tempérance. Autrement dit, à ne pas s'enivrer de son pouvoir, à ne pas l'utiliser de manière malhonnête. Par exemple, en voulant soutirer des pots de vin. Et d'ailleurs, c'est ce que Félix essayait de faire avec l'apôtre Paul. Il a dit qu'il le gardait en prison parce qu'il essayait que Paul, il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Paul invite Félix à utiliser son pouvoir, son autorité, dans le cadre strict de la justice. Ça nous pose la question, si on est en position d'autorité, que faisons-nous quand nous sommes en position d'autorité ou que nous avons un certain pouvoir dans un domaine? Est-ce que nous en faisons une occasion de nous affirmer, une occasion d'écraser les autres, de nous valoriser nous-mêmes au détriment de ceux qui sont sous notre autorité, de nous enrichir par tous les moyens. Le pouvoir est grisant toujours, c'est grisant, ça donne de la force d'être, ça valorise. Il nécessite qu'on se donne un cadre bien clair et juste quand on l'exerce. Et la tempérance pour les gens qui ont du pouvoir, de l'autorité, c'est cela, c'est garder cette mesure de la justice et d'éviter de faire de ce pouvoir l'occasion de s'affirmer contre les autres. Je continue sur Félix, le gouverneur. D'après ce qu'on sait de lui, Félix s'était laissé séduire par Drusille, sœur du roi Agrippa, femme extrêmement belle, déjà mariée et dont les mœurs choquaient les Juifs de manière notoire. Et lorsque Paul leur parle de tempérance, il appelle aussi à une vie sexuelle bien réglée, fondée sur l'amour, fondée sur le respect du conjoint d'autrui, fondée sur la fidélité, fondée sur le refus d'instrumentaliser son corps pour grimper plus haut, ou sur le refus de profiter d'une position de pouvoir pour obtenir les faveurs sexuelles de quelqu'un. Autrement dit, la tempérance dans notre vie sexuelle, c'est aussi cela, la fidélité aimante. Un frein mis à nos yeux, à nos gestes, envers tout autre que notre conjoint. Le refus de la séduction, où l'on conquiert pour mieux jeter ensuite. Il y a des gens qui fonctionnent comme cela. Et là, on utilise des ressorts où vraiment on passe à côté de la valeur réelle de la sexualité. À l'intérieur du mariage, la tempérance a aussi sa place, parce que le respect de notre conjoint reste une limite à mettre à nos désirs et à nos pulsions, même dans le mariage. La tempérance, c'est ne jamais imposer à notre conjoint ce qu'il ne désire pas et que parfois nous voudrions au nom de notre désir à nous. Donc dans la vie sexuelle, de manière générale, on a besoin de tempérance. Tempérance pour garder cette sexualité dans le sens de ce qu'elle doit apporter, harmonie, amour et non pas domination sur l'autre, fidélité, respect de chacun. Et puis, oui, le profond respect toujours entre des conjoints pour éviter que la sexualité ne devienne un lieu où quelqu'un souffre parce que l'autre domine, parce que l'autre impose. Voilà des domaines où la tempérance, très concrètement, doit jouer. C'est ce que Paul rappelle à Félix, à Drusille, qui avaient fait de leur sexualité un peu n'importe quoi et les moyens d'arriver à leur fin. On sait aussi, troisièmement, qu'à la cour des gouverneurs romains, on donnait libre à toutes sortes d'orgies qui mêlaient les excès de table, les excès d'alcool et la débauche sexuelle. Et lorsque Paul parle de tempérance à un gouverneur romain, il pense aussi certainement à cela. Il en parle d'ailleurs ailleurs, parce qu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Paul dénonce ceux qui s'enivrent, ceux qui se livrent à des excès de table. Et il faut savoir que la société grecque était très portée à cela, à ces moments où on lâchait tout. Ça faisait partie de la religion, ça faisait partie de la religion. Les rites au dieu Bacchus, qui était le dieu du vin, c'était vraiment des rites, enfin c'était vraiment des moments d'ivresse, de débordement, et c'était considéré comme une valeur religieuse que de participer à ces bacchanales, c'est ce qu'on appelait là, où il y avait vraiment tous les excès de tous les ordres. Et c'était une valeur religieuse, c'était inscrit vraiment dans la vie des gens. C'était aussi inscrit dans la vie sociale. On sait que toutes les corporations professionnelles au temps du Nouveau Testament, elles se retrouvaient dans les temples. Et s'ils se retrouvaient dans les temples, c'était pas pour écouter un message, comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Mais on se retrouvait dans les temples pour faire quoi? Pour manger, pour boire, et pour se livrer à toutes sortes de choses. Et donc vraiment, c'est comme ça que fonctionnait la vie sociale au temps des chrétiens du Nouveau Testament. Et c'est pour ça que Paul leur parle vraiment des excès de table, de toutes ces choses-là. Et c'est l'équivalent tout à fait tout à fait, strictes de nos soirées d'aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, que de soirées, parmi les jeunes, parmi les étudiants, où l'alcool coule à flot, et où on se met dans toutes sortes d'états, très, très volontairement et tous ensemble. C'est très proche de tous ces apéros professionnels où tout est arrosé aux frais de la société qui organise et où ça permet aussi tous les excès. On connaît ces choses-là, c'est notre vie d'aujourd'hui. C'était exactement la même chose au temps de Paul. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'entre les phénomènes de groupe, entre les angoisses et les pressions que l'on a, que l'on porte et qu'on cherche à oublier, tous ces mélanges euphorisants d'alcool et de toutes sortes de produits, c'est facile de se laisser entraîner, c'est facile de se laisser prendre et de se trouver soit dans des excès, dans des comportements où on fait des choses qu'on voudrait surtout pas et dont qu'on se reproche après, ou se retrouver même après dans des addictions carrément, parce qu'on s'est laissé entraîner et que régulièrement on a donné prise à tout cela. Nous sommes là donc dans ces situations également où nous sommes appelés à garder la mesure, garder le contrôle, préserver notre intégrité au milieu de tout cela. La tempérance, c'est cela pour nous aujourd'hui aussi, au milieu de tous ces contextes qui sont les nôtres, professionnels, étudiants, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, entre amis, etc. Savoir apprécier ce qui est bon, oui, mais dans la mesure, dans la maîtrise et dans le respect de notre dignité en tant que chrétien. J'ai parlé en relation avec Félix, le gouverneur, du cadre public des rencontres sociales, mais il y a aussi nos comportements privés, quand nous sommes tout seuls à la maison. Il y a des actes compulsifs de certains à l'égard de la nourriture. On mange, on ne s'arrête pas. Mais pour combler quoi? Pour remplir quel vide? Et ça arrive que tout seul chez soi, on soit là, en train de manger, et on se dit, mais pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps en train de chercher quelque chose là-dedans? De même pour l'alcool. Hein, des gens qui ont l'habitude, chaque soir, après le travail, de dire, on rentre à la maison, on se prend un petit whisky. Arrive. Je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui fait ça de s'interroger un petit peu sur lui-même, de dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour cela. C'est quoi? Il reprend de quoi ce verre de whisky que je prends tous les soirs en rentrant? On a l'impression de mépriser, mais est-ce qu'on est bien sûr de cela? Si dès qu'on est sous pression, dès qu'on est un peu triste, dès qu'on a un petit souci, on se dit, allez, je vais m'ouvrir une petite bouteille à la maison. Ah, comme ça, on va prendre un petit quelque chose, ça va faire du bien. Ok, ça peut aider un peu. Mais qu'est-ce qu'on est en train de résoudre de cette façon-là? Qu'est-ce que ça veut dire de notre fonctionnement, si on fonctionne de cette façon-là? On a peut-être l'impression de maîtriser, de dire, ah non, je ne suis pas alcoolique, mais est-ce qu'on est bien sûr que l'on maîtrise ce qui se passe quand on fait cela? La tempérance, me semble-t-il, doit être pour nous une vigilance. Si j'aime le vin, c'est mon cas. Si j'aime le vin, si j'aime la bière, c'est pas mon cas, mais c'est le cas d'autres. Si j'aime le vin, si j'aime la bière, si j'aime d'autres alcools, si j'apprécie de boire, je dois faire le point régulièrement sur mes quantités. Je dois m'assurer régulièrement que je peux m'en passer. Quand on aime le vin, quand on aime l'alcool, il faut se donner ces vérifications-là. Il faut être bien sûr de savoir où l'on est. Et surtout, si j'ai recours à l'alcool ou à la nourriture pour combler quelque chose, il faut s'attaquer à la racine du problème, à la cause de cette angoisse, même légère, ou la cause de ce manque. Je crois que c'est très important si on se rend compte qu'on va vers des comportements un peu compulsifs de nourriture, de manger, de boire, qu'on essaye d'analyser qu'est-ce qui fait que on a besoin de ça. Qu'est-ce qui fait que? Quel genre de situation en arrière-fond m'amène à faire cela? Et quand on identifie ces causes, on peut travailler sur ces causes et avec l'aide de Dieu, trouver aussi des solutions ou par des mesures d'hygiène et d'équilibre de vie ou avec des conseils de professionnels. Mais savoir aussi à certains moments donnés identifier les causes qui peuvent nous conduire à ce genre de comportement. Donc voilà, si vous voulez, pour la question de comment gérer nos plaisirs, ce qu'on, nos désirs sur tous ces différents domaines, la tempérance est vraiment importante. Il est bon aussi de nous rappeler qu'il existe toutes sortes de comportements addictifs. Je ne vais pas faire la liste, mais il faut quand même en parler un petit peu. Hein, il y a addiction lorsqu'on ne maîtrise plus quelque chose, lorsqu'on ne peut plus s'en passer, ou lorsque le manque s'installe dès que je n'ai pas cette chose-là, et que ça prend beaucoup ou tout notre temps, beaucoup ou tous nos centres d'intérêt, au détriment d'autres aspects de la vie. Et je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas juste une parole, une réalité en l'air, ce sont des vraies réalités que ces addictions. Parfois l'addiction est liée à certaines substances. On sait que le tabac, avec la nicotine, crée des envies dans notre cerveau. Donc il y a des substances qui font que on devient addict à la chose. C'est vrai pour la drogue, c'est vrai pour l'alcool au bout d'un certain temps. Parfois, il y a une emprise plus psychologique, hein, l'addiction aux jeux vidéo, par exemple, ça existe aussi. Hein, on a là des sensations très, très fortes, et c'est là qu'on se sent vivre vraiment. C'est là peut-être qu'on trouve des défis qui nous saisissent complètement. Il y a des gens qui sont tellement là-dedans que ça devient toute leur réalité. Et là, je crois que c'est autant ça peut être très sympa de faire des jeux vidéo, autant il y a un moment donné, si ça remplit notre vie, attention, où est-ce que nous en sommes ? Les jeux de rôle en ligne, on dit que l'addiction à certains jeux de rôle en ligne peut devenir très forte, un danger. En particulier quand il y a des réseaux, quand on joue avec d'autres, des jeux de rôle avec d'autres en réseau. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Lorsque un joueur se déconnecte, la partie continue avec les autres et ça tourne sans la personne qui se déconnecte. Et du coup, celui qui se déconnecte a l'impression qu'il manque aux événements qu'il a à côté de ce qui est en train de se passer. Et ça crée des addictions très graves. Je veux surtout pas louper la dernière chose qui s'est passée. Et des personnes sont complètement prises par ce genre de choses-là. Les jeux d'argent peuvent aussi devenir de véritables addictions, il faut le rappeler. En général, le point de départ de gens qui sont addicts, qui ont des addictions aux jeux d'argent, le point de départ, c'est en fait un premier gain. On a gagné une fois. Et ce premier gain crée une émotion très forte, très, très positive. Et ça, on a envie de revivre ce moment. Et c'est pour ça qu'on joue, on rejoue pour revivre ce moment magique. Et puis, petit à petit, le jeu s'impose comme une manière de se sentir bien. Mais évidemment, il y a les pertes. Et les pertes incitent à faire quoi ? À tenter sa chance à nouveau, dans l'espoir de se refaire. Et plus on perd, plus on augmente les mises pour essayer de s'en sortir. Et des gens sont comme ça complètement pris dans cet asservissement des jeux d'argent. C'est un engrenage dans lequel il est difficile de sortir. Vous voyez, il est important pour nous de nous rappeler qu'il y a de vrais asservissements et qu'on n'y entre pas tout de suite, mais que ça se fait progressivement. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre dans une vraie tempérance, une vraie maîtrise de ce que nous faisons pour nous éviter ce genre de choses-là. J'ai parlé d'addiction, mais avant le stade addictif, la tempérance doit aussi veiller sur nous, nous-mêmes, dans nos différents comportements. Nous avons tous nos ornières, nos habitudes qui peuvent nous lier un peu plus qu'il le faudrait, un peu plus fort que ce que nous osons bien l'admettre. Par exemple, nous arrive-t-il d'avoir une soirée sans télé ? Nous arrive-t-il d'avoir une soirée sans télé ? C'est une question. D'éteindre le poste pour faire autre chose, parce que la vie, c'est aussi autre chose que la télé. D'éteindre le poste pour se parler en couple, en famille, pour faire un projet, pour téléphoner à quelqu'un, pour prendre un livre, pour prendre un temps avec Dieu. Il faut réfléchir à ces choses-là. La tempérance, c'est aussi savoir donner une juste place à chaque chose pour rester ouvert à l'ensemble des réalités qui constituent notre vie. On veut rester ouvert à l'ensemble de ce qui fait la richesse d'une vie et ne pas laisser une chose nous manger complètement, nous envahir complètement, hein, être envahi par une seule activité. Et en fait, dans la télé, c'est plutôt être envahi par une seule passivité. Et c'est ça son attrait d'ailleurs. Je ne me laisserai asservir par rien, nous dit l'apôtre Paul. Je ne me laisserai asservir par rien. Là, il y a un principe de liberté à préserver. Un principe de liberté qui veille aussi aux équilibres de notre vie, à l'harmonie entre les différents domaines qui font qu'une vie peut être riche, peut être belle, peut être relationnelle sous le bon regard de notre Dieu. Alors un dernier mot, rapide, sur les chemins de la tempérance. Comment garder la mesure qui préserve notre liberté, notre intégrité d'enfant de Dieu ? Quelques lignes directrices rapides. Première chose qui me semble importante, c'est de soumettre régulièrement notre vie au regard de Dieu. Soumettre régulièrement notre vie au regard de Dieu. On a le privilège de pouvoir avoir des moments où on s'arrête dans notre vie chrétienne, s'arrêter devant Dieu pour penser à la lumière de sa parole dans le vis-à-vis du Seigneur. Et il nous faut apprendre à faire le point. Psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et ça, c'est quelque chose à entretenir dans notre vie, à prier régulièrement. Je veux que ma vie t'honore, Seigneur. Alors je te parle de tous les domaines de ma vie. Devant Dieu, on peut parler de tout, il sait tout de toute façon. Je te parle de tous les domaines de ma vie. Je te les soumets, je les soumets à ton regard. Je les confie à ton action pour que tu reprennes ce qui doit être repris, pour que tu transformes ce qui doit être transformé. Nous devons prier pour notre tempérance. Nous devons prier pour rester équilibrés au milieu de tout ce que nous vivons dans tous les domaines de notre vie. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à avoir la mesure qui convient à un enfant de Dieu dans tout ce que nous vivons. Et c'est bien de prier pour tout cela. Prier pour mon attachement à l'argent. Seigneur, j'ai de l'argent. Je te prie pour la façon dont j'utilise cet argent. Prier pour mon rapport au pouvoir. Si j'ai du pouvoir, si j'ai de l'autorité, Seigneur, je te demande que tu m'aides à savoir bien exercer cela de manière juste. Prier pour ma vie sexuelle. Prier pour la façon dont je mange, pour toutes ces choses dont on a parlé, prier pour cela. Une vigilance, soumettre régulièrement notre vie au regard de Dieu. Deuxième ligne sur les chemins de l'intempérance, c'est veiller sur nos sources intérieures profondes. Veiller sur nos sources intérieures profondes. Qu'est-ce qui nous permettra de garder la maîtrise ? Et qu'est-ce qui nous évitera les compensations incontrôlées, hein, ces choses qu'on n'arrive plus à maîtriser. C'est d'avoir un noyau intérieur qui est solide et qui est harmonieux, bien ressourcé. Veille sur ton cœur, car de lui viennent toutes les ressources de la vie. Et c'est important que nous veillions à notre vie intérieure, qu'elle soit riche, qu'elle soit devant Dieu. Et si vraiment on sent qu'il y a des moments, des choses qui sont difficiles à vivre, difficiles à assumer, qu'on en parle à Dieu, qu'on demande à Dieu la force de le vivre. Et avoir vraiment une attitude intérieure bien en harmonie, c'est ce qui va nous éviter bien des comportements que nous ne maîtriserions plus ou nous chercherions autrement des compensations de ce que nous n'avons pas. Et puis troisièmement, il nous faut cultiver les disciplines qui manifestent notre liberté. Et Paul nous invite à garder une juste distanciation dans notre façon de jouir des dons de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, il nous invite à faire une chose assez étonnante. Il nous dit « Usez du monde comme n'en usant pas ». Voilà, nous sommes invités à user du monde comme n'en usant pas. La formule est paradoxale. Mais elle dit à la fois, il faut être bien relié aux choses, bien profiter des choses, mais en même temps, garder la distance. Jouer sur ces deux tableaux. Et il est important pour là d'avoir un certain nombre de disciplines à exercer. Comment je vais savoir que je ne suis pas avide de l'argent, que l'argent n'est pas mon maître, si j'ai de l'argent? Ben, la discipline qui va fonctionner, c'est la discipline de la reconnaissance et la discipline du don. Si je suis capable de donner, c'est que je ne suis pas juste agrippé à l'argent que je dois garder à tout prix. La discipline du don, par exemple, fait partie des régulations très bonnes par rapport à cela. La discipline du service pour ceux qui ont de l'autorité et qui pourraient en faire une sorte de pouvoir dominant. La discipline du respect, toujours, quand on est dans une grande proximité ou qu'on a un ascendant. La discipline de l'abstinence temporaire lorsque l'on consomme certaines choses. Tout cela, ce sont des marqueurs de notre liberté, des marqueurs de notre liberté, et il faut veiller à avoir ces disciplines. Et puis, dernier point, il nous faut garder en vue les essentiels. Qu'est-ce qui demeure et qu'est-ce qui passe? Dans 1 Corinthiens, quand Paul dit « Je vous invite à user du monde comme n'en usant pas », il dit « Car la figure de ce monde passe ». On ne va pas s'attacher à des choses, enfin s'attacher, se harponner complètement à des choses qui passent. Il nous faut veiller sur ce qui fait la différence entre ce qui passe et ce qui demeure. Le monde passe, dit 1 Jean, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous avons à nous fonder sur ces essentiels et à garder aussi la différence. Alors voilà, la tempérance, vers quoi elle peut nous conduire, à quelles attitudes très, très concrètes elle peut nous inviter à réfléchir, à veiller. Mais je termine en rappelant l'objectif et le sens de cette vertu de tempérance. La tempérance, c'est d'être capable, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, à trouver un grand plaisir dans ce que Dieu nous donne, mais en gardant dans cette jouissance le sens de la mesure et le respect de ce que Dieu attend de nous. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Restons libres. Amen.